Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Je choisis une femme en prenant des risques.
Cinextenso.
Non !
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démette la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.
Il a fait l'ouverture du Festival de Cannes, mais il y a peu de chances qu'il enlève la palme et même le moindre prix. Il ne semble pas taillé pour la compétition, mais ça ne l'empêche pas d'être attachant. Moonrise Kingdom de Wes Anderson, le réalisateur de la famille Tannenbaum, La Vie Aquatique et d'abord du Darjeeling Limited, nous transporte en 1965 sur une île perdue. Alors, par contre, j'ai pas très bien compris où. Alors, il n'y a pas de route goudronnée, il y a de la forêt, des criques, un terrain de jeu idéal pour les scouts qui ne doivent compter que sur eux-mêmes et un couteau suisse. L'isolement, au cinéma est souvent anxiogène, mais la nature est le terrain propice à l'aventure. Et ici, eh bien, les deux sont réunis, puisque nous annonce un narrateur habillé de manière ridicule qui circule d'un décor à un autre comme pour mieux nous tenir en haleine. Une tempête va arriver dans 3 jours. Alors, si c'est un élément du film, il ne nous intéresse pas tout de suite. Ce qui nous intéresse, c'est la relation entre Suzy et Sam, qui, à 12 ans, eh bien, sont amoureux et concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. L'une, Lolita glaciale, quitte la demeure familiale qui écoute des vinyles pédagogiques expliquant la musique de Benjamin Britten, et l'autre, le binoclar, à l'expression orale poussive, quitte son camp de scout où il est détesté car détecté comme psychologiquement instable. Au milieu de tout ça, eh bien, il y a le chef de la police qui ne commande que lui-même, en la personne de Bruce Willis, qui doit résoudre une des rares affaires que connaît sans doute sa juridiction. Autant dire qu'il ne déclenche pas le plan épervier. Les deux amis vivent leur histoire d'amour en usant de romantisme et s'émancipent, tandis que les adultes aidés par les louveteaux tentent de les retrouver scout que scout. Il a déjà dû être fait par d'autres, mais celui-ci, je le voulais.
Cher Suzy, voilà mon plan.
Cher Sam, ma réponse est oui.
Cher Suzy, quand ?
Cher Sam, où ?
Cher Suzy, marche sur 400 mètres, plein nord, depuis ta maison, jusqu'au chemin de terre qui n'a pas de nom indiqué. Tourne à droite et va jusqu'au bout. Je te retrouverai dans la prairie.
Il manque qui ? Chakouski, tu es là ? Il s'appelle Hippopette. L'oiseau s'est envolé.
Quoi ? Où es-tu, nom de Dieu ?
Je suis là.
Ça t'intéresse de savoir que ta fille s'est enfuie de la maison ?
Question tendancieuse. Le temps que les renforts arrivent, je mandate ce garçon maigre, ce garçon petit et ce garçon avec le pansement sur l'œil qui m'accompagneront dans le break.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Qu'est-ce que je vois là ?
Il peint des aquarelles, des paysages surtout, mais aussi quelques nus.
Quand on le retrouvera, je prends pas le risque de venir sans être armé.
Moi non plus.
Où est le garçon ? On me dit qu'il a été frappé par la foudre.
C'est la vérité.
Je vais derrière la maison. Je vais chercher un arbre à abattre.
L'univers d'Anderson est évidemment fantaisiste, poétique et baigne parfaitement dans l'ambiance des années 60. C'est une lumière jaunie, vaguement nostalgique, qui éclaire tout le film, qui est d'une parfaite maîtrise. On ne passe pas à côté des mouvements de caméra, alors toute la gamme des panoramiques y passe, hein, jusqu'aux 360 degrés. Les travelling aussi, ils sont latéral, avant, arrière. De ce point de vue-là, Anderson nous régale, d'autant qu'il y a quelque chose de remarquable, quoique un peu obsessionnel dans la composition des plans. Alors, c'est une idée de symétrie qui appuie invariablement la randonnée des jeunes amoureux, leur histoire. Alors, c'est un peu rude hein, pour les adultes d'admettre que deux jeunes de 12 ans puissent s'aimer et vouloir le vivre par-dessus tout, et surtout par-dessus la famille. Et pour le garçon, c'est beaucoup plus facile puisqu'il est orphelin.
Vous êtes le capitaine Sharp.
C'est exact.
Bonjour, Action Sociale. J'ai placé l'enfant sous votre surveillance. Vous êtes responsable de sa sécurité. On me dit qu'il a été frappé par la foudre.
C'est la première fois que j'entends parler de ça.
C'est la vérité.
Chef de troupe Ward, je présume ?
Oui, madame.
Votre réputation vous précède. Vous deux, vous êtes vraiment les plus incompétents parmi tous les gardes d'enfants que l'Action Sociale ait jamais eu le malheur de rencontrer en 27 années de carrière. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Vous ne pouvez pas faire ça. Là-bas, ils le mangeront tout cru.
Où ça ?
Ça s'appelle comment déjà ?
Le refuge des jeunes mineurs.
Au refuge des jeunes mineurs.
C'est un nom de prison.
Retrouvez-le, je vous prie. Et veuillez le remettre à l'action sociale. Rien d'autre n'est en votre pouvoir.
Au-delà de l'atmosphère 60s, de la maîtrise formelle d'un univers décalé, poétique, omniprésent qui fait sourire chaque séquence, Wes Anderson a aussi réuni un casting étonnant. Alors, ce qui n'est pas étonnant, c'est de retrouver Bill Murray qui est dans tous ses films. C'est le père de la jeune Susie qui veut couper un arbre pour se calmer, on vient de l'entendre. Mais on trouve aussi Edward Norton en chef scout qui doit faire face à la débâcle et qui devra se prouver qu'il n'est pas un mauvais chef. Il y a Tilda Swinton en fonctionnaire intransigeante de l'assistance publique. Et puis, il y a Frances McDormand qui utilise un porte-voix pour parler à la maisonnée. Et puis, il y a le flic Bruce Willis qui ne met aucun coup de poing, qui ne vit pas avec le fantôme de sa femme, mais qui est quand même seul sur une île perdue. Ce personnage va évoluer au fil du récit, comme tous les personnages d'ailleurs, car finalement, n'est-ce pas celui qui n'est pas père et qui est célibataire qui peut le mieux comprendre cette fuite amoureuse.
Cinextenso.
Est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Allez, on va partir maintenant du côté de Cannes, après Montpellier. Merci, merci, merci. Cannes, la Riviera sous la pluie battante, les coupes de champagne qui s'envolent et les jupes qui se soulèvent. Cannes, un festival haï par les autochtones alors qu'il ramène pourtant 500 millions d'euros par an à la ville. Cannes, un festival dont le budget ne s'élève en fait qu'à 20 minables millions d'euros, budget provenant, précisons-le, du ministère de la Culture et de la Communication. Cannes, il faut bien l'avouer, est comme n'importe quel festival de cinéma. Regroupant des gens qui travaillent et des gens qui font semblant de travailler. Arrêtez de me regarder, s'il vous plaît. Sauf que Cannes rameute quand même 50 000 festivaliers. Alors, dès le début, vous êtes pris dans un tourbillon, vous marchez 18 heures par jour sur des talons, enfin peut-être pas vous, mais moi oui, et vous ne savez plus où donner de la tête. Les stands du marché du film se succèdent, vous proposant des films indiens, brésiliens, lituaniens, et même en provenance de pays dont j'ai appris l'existence sur place. Le short film Corner est également un lieu de rencontre où chacun espère pouvoir parler de son court-métrage à un riche producteur. Le problème étant que justement, le producteur est une espèce animale très rare à Cannes. Vous commencez à parler à un individu en costard qui a l'air intéressé par votre film et vous vous rendez compte, au bout d'une demi-heure, qu'il s'agit en fait, comble de l'horreur, d'un acteur ou d'un autre réalisateur, autrement dit d'un enfoiré d'artiste inutile comme vous. Et le seul moment où vous arrivez à vous incruster dans une soirée organisée par la FPF, l'Association Française des Producteurs de Films, vous êtes tellement émerveillé par la vodka gratuite et par la piscine intérieure que vous repartez finalement pompette sans leur avoir adressé un mot. Oui, car à Cannes, les soirées sont un enjeu majeur. Officiellement, il s'agit de l'endroit adéquat pour se faire de nouveaux contacts. Officieusement, il s'agit de lieux où l'on se sent appartenir à l'élite grâce au simple fait d'y être entré. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas journaliste aux Inrock ou à Arte, vous n'avez pour ainsi dire aucune chance de passer le stade des videurs. Et croyez-moi, c'est un stade relativement hermétique et pas très sympa. J'ai quand même eu la chance d'aller à la soirée de l'ouverture de la quinzaine, je connais des gens très haut placés, une soirée où l'on te tend directement une bouteille lorsque tu demandes une coupe de champagne. Une soirée où j'ai croisé Michel Gondry, même si je dois avouer qu'au bout de la troisième bouteille en une heure, j'ai dû aller vérifier sur Google Images que c'était bien lui. Il était d'ailleurs avec une brune de 25 ans qui aurait pu être sa fille, quoique vu les attouchements qu'il pratiquait sur elle, je pense pas que ce fût le cas. Mais le temps que je me retourne pour engloutir un petit four, il avait disparu. Des petits fours d'ailleurs délicieux, tant ils possédaient de subtils arômes de gratuité. Car une fois que vous êtes rentré dans une soirée, peu importe le moyen, sachez que tout sera gratuit. Vous vous retrouvez donc comme ces pauvres gens qui demandent des invitations aux séances devant le palais. Vous êtes prêt à raconter tout et n'importe quoi pour que les portes des soirées s'ouvrent, à inventer des noms que vous connaissez soi-disant, à interpeller des gens que vous n'avez jamais vus, à enjamber des barrières pour rentrer en fraude. Oui, je l'ai fait. Passé le premier jour à Cannes, vous comprenez qu'il vous faut arriver à tel stand pour avoir droit à l'apéro de midi. Vous faites semblant d'écouter un discours pour lequel vous n'avez aucun intérêt et vous buvez votre première coupe de la journée. S'en suivent l'apéro de 14h, celui de 15h, de 16h, de 17h et de 18h, qui ne sont que les prémices des soirées dont je vous ai parlé précédemment. J'ai ainsi compris à quoi servaient toutes ces cartes que l'on s'échangeait à Cannes. Eh bien, ça sert tout simplement en fait à se rappeler des gens avec qui vous avez parlé, parce que quand vous vous réveillez le lendemain, après 8 apéros, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis bien sûr, comment ne pas parler de la montée des marches que vous effectuez grâce à 1000 connexions et suite à 30 minutes d'attente. Attention, si vous êtes une femme, et c'est bien l'un des rares avantages, vous pouvez monter les marches en robe bleue, léopard ou même toute nue si vous en avez envie. Si vous êtes un homme en revanche, le dress code est plus strict qu'à l'armée. Smoking noir, nœud papillon et chemise blanche. Et je peux vous garantir qu'avec une chemise grise, vous ne foulerez pas le tapis rouge. Une fois à l'entrée des marches, vous attendez, frétillant, que Naomi Watts soit passée. Les gens vous appellent, évidemment ce n'est pas pour un autographe, mais pour que vous vous poussiez, car vous les empêchez de voir les stars, que par ailleurs ils ne connaissent même pas. Ça, j'ai pu le vérifier maintes et maintes fois. Alors personnellement, j'ai un peu manqué de classe, puisque j'ai fait toute la montée des marches à reculons, histoire de profiter du spectacle, de la foule qui m'acclamait. Et puis une fois arrivé en haut, j'ai vite demandé comment ressortir de la salle, vu que le film qui était projeté, c'était en fait Madagascar 3, que j'avais absolument aucune envie de le voir. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais je n'ai vu aucun film. Alors bien sûr, Cannes a déjà eu depuis le début son petit lot de scandales. Par exemple, Yushri Nashrala, le réalisateur égyptien de Après la bataille, film en compétition, a déclaré qu'il ne souhaitait pas vendre son film à Israël, réalisant ainsi la première déclaration politique du 65e festival de Cannes. Et ça s'est environ passé, il me semble, jeudi dernier. Alors vous vous doutez que cette partie polémique cannoise n'est que l'occasion pour moi de pousser une petite gueulante féministe. Dans une tribune parue dans Le Monde il y a environ une semaine, intitulée « À Cannes, les hommes montrent leurs films, les femmes montrent leurs bobines », les réalisatrices Fanny Cottensonge, Colline Serrault et Virginie Despentes pointaient du doigt l'absence totale de femmes en compétition pour cette année 2012. Sur 22 films sélectionnés, tous ont été faits par des hommes qui sont pour la plupart loin d'en être à leur première venue à Cannes. De nombreuses réactions ironiques ont été émises de ci, de là dans la presse par des journalistes virils, arguant que si la parité était loin d'être respectée, ce n'était sans doute pas par machisme, mais simplement parce que les femmes ne réalisaient que peu de chefs-d'œuvre. Pourquoi donc, dans ce cas, Colline Serrault, Pascal Ferrand ou Catherine Hardwicke ont-elles été récompensées aux Césars ou aux Oscars sans que leur film ait été sélectionné à Cannes? Sans doute, l'échelle de valeur du festival est-elle différente? D'autres argumenteront via le fait que les réalisatrices sont moins nombreuses que les réalisateurs. J'ai voulu en avoir le cœur net en tapant « réalisatrice » dans Wikipédia. Et il m'est apparu une liste de noms catégorisés par A, B ou C. Dans un premier temps, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on avait classé les réalisatrices par taille de soutien-gorge. Mais en fait, pas du tout. Il s'agissait du début d'une longue liste de noms rangés par ordre alphabétique qui se poursuivait quand même sur 4 pages. Alors peut-être serait-il temps que Gilles Jacob cède sa place à quelqu'un d'un peu plus ouvert sur le monde cinématographique actuel, afin de renouveler l'ère de Cannes et de mettre fin à certaines injustices. Moi, présidente du festival, j'irai chercher un peu plus loin que les Haneke, les Ken Loach ou les René, qui ont déjà leur chambre réservée aux Martinez d'une année sur l'autre. Moi, présidente du festival, j'autoriserai les hommes à venir en jupe sur les marches et pas uniquement Jean-Paul Gaultier, et les femmes à venir en complet 3 pièces si elles en ont envie. Et moi, présidente du festival, j'arrêterai de choisir pour maîtresse de cérémonie des potiches de 25 ans qui ne savent pas aligner 3 mots comme Bérénice Bejo, qui nous a gratifié d'un discours écrit par les auteurs de la série Bref. Et c'est dingue comme l'humour change d'impact selon la bouche dont il sort. N'oublions pas que la jeune comédienne avait reçu un César pour un rôle muet et elle a prouvé lors de l'ouverture de Cannes qu'elle excellait en effet dans le silence en clôturant son discours par une flopée de conseils qui semblaient lui être destinés.
Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Et maintenant, je vais suivre mon conseil et me taire à mon tour pour laisser parler le cinéma, car c'est toujours lui qui a le dernier mot.
Bravo, bravo.
Maintenant, moi aussi, je vais me taire.
Cinextenso.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Artus, la petite boîte d'édition DVD qui monte, vient en l'espace donc de 2 mois là, d'éditer 5 titres. Donc entre film noir oublié, thriller culte, un gothique italien, l'amateur de cinéma bis n'a que l'embarras du choix. Donc là, les 2 titres italiens qui m'intéressent représentent d'un côté ce qu'on peut faire de plus bis et racoleur et de l'autre de plus subtil et élégant. Vierge pour le bourreau et l'effroyable secret du docteur Hitchcock. Donc on commence par Vierge pour le bourreau. Attention, c'est une couillonnade culte, comme aime le claironner d'ailleurs Alain Petit, qui évoque la carrière de Massimo Pupilio, le réalisateur, dans un des bonus. En effet, pas la peine de crier au chef-d'œuvre devant cette bisserie sympathique et aberrante qui peut être considérée comme l'ancêtre des tortures porn telles que Saw ou Hostel. Mais ne vous attendez pas à un déluge de scènes gore, de tripailles, de membres sectionnés et j'en passe. L'horreur graphique, époque oblige, est assez timide. N'empêche, pour un film datant de 65, les auteurs vont assez loin en matière de sadisme et d'effets choc. Enfin, dans le dernier tiers surtout, car pendant une heure, faut bien l'avouer, Vierge pour le bourreau se révèle assez languissant et même plutôt d'une banalité consternante.
Un film pas comme les autres. Une ambiance curieuse et mystérieuse. Voilà le film où la fiction dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Ici, ça me plaît guère. Non, ça me plaît pas.
Ah, vous les orientales, vous êtes trop superstitieuses.
Vierge pour le bourreau. La mort rôde, épie, suit chaque protagoniste de ce film. Une mort insolite, inexplicable. Vierge pour le bourreau. Terreur. Violence.
On dirait une figure humaine.
Ouais, Eric. C'est vrai, je m'en étais aussi aperçu. Mais je ne voulais pas y croire. On dirait bien une figure humaine. Sous un masque.
Dans Vierge pour le bourreau, la peur, l'angoisse poussée au paroxysme, le film le plus fantastique de l'année. Château hanté ou mystérieux, vous entrerez à la suite des protagonistes de ce drame.
Kinojo. Oh,
oh, attention, Rick. Oh, 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 si tu approches, tu vas être tué. Va-t'en, Rick, il n'y a rien à faire, maman.
Vision d'épouvante. Vous ne pourrez croire ce que l'on ose vous présenter.
Toi, tu n'es plus rien pour moi. Je peux te le dire maintenant, tu ne représentes plus rien pour moi.
La lutte à mort est engagée entre le monstre et l'homme. L'antre de la bête, du fou monstrueux vous sera dévoilé. Vengeance. Rien n'arrête la folie mystérieuse du bourreau sanguinaire.
Le bourreau sanguinaire. Le bourreau est là. Et je vais vous torturer. Jusqu'à la mort.
Un film haletant. Les images qui se dérouleront devant vos yeux resteront gravées à jamais en votre esprit. De l'action, de la violence, comme encore jamais vu. Vierge pour le bourreau. Avec Mickey Arguité, le renommé Monsieur Muscle. Ce film vous est présenté par Cosmopolis Film et le film Marbot. Mise en scène de Max Hunter. Prochainement sur cet écran.
Alors, Max Hunter, c'est bien le pseudo de Massimo Pupilio. Et le titre original, en fait, c'est Le Bourreau Rouge et pas Vierge pour le Bourreau, car, faut bien l'avouer, il n'y a pas de Vierge dans le film. Mais c'est pas grave. Pour qu'est-ce l'exploitation que c'est en salle, c'est toujours un petit succès de mettre Vierge. Donc, le sujet, donc, c'est Daniel Parks, un éditeur de romans photo, organise des séances avec de jolies nymphettes dans un vieux château. Il ignore qu'autrefois, ce lieu a été le théâtre de la mort du Bourreau Rouge dans des conditions horribles. Le bourreau semblerait revenir hanter les lieux, à moins qu'il ne s'agisse du propriétaire du château. Bon, là j'ai fait un petit spoiler, mais ça n'a aucune importance, tant le suspense s'est éventé très rapidement. Bénéficiant toutefois d'une photographie criarde du plus bel effet et de décors magnifiques alternant le kitsch 60s et l'inspiration gothique, Vierge pour le bourreau est une agréable série Z qui culmine dans une dernière partie où Massimo Pupillo se lâche en termes d'imagination horrifique. Demoiselle piégée dans une immense toile d'araignée, liquide brûlant jeté sur le corps d'une des malheureuses victimes, un chevalet étirant le corps d'une jeune fille, voilà, très sage sur le plan visuel et meurt dans son pamoin d'une perversité folle et titille l'imagination morbide du spectateur. C'est racoleur à souhait, d'autant que le réalisateur ne lésine pas sur un érotisme purement gratuit, ajoutant un peu de piment à son petit délire bis. Alors dans le rôle du bourreau, Mickey Argitay, qui était d'ailleurs un culturiste très connu à l'époque, il en fait des mégatonnes. Avec son corps musclé, huilé, l'ex-compagnon de Jane Mansfield, toutefois, vous voyez, il se livre à un numéro hystérique et borderline qui prend toute sa saveur aujourd'hui au, je dirais second degré, je dirais peut-être plus, hein, 18e degré. Auréolé d'une oracule, Vierge pour le bourreau est un de ces petits plaisirs coupables qui s'apprécient pour ce qu'il est. Une bisserie déviante et désuète en même temps. Un peu paradoxal, mais charmant comme tout. Et à ne pas manquer au moins pour l'araignée géante qui ressemble vraiment à un crabe et qui ne bouge absolument pas. Enfin, c'est très curieux.
D'accord.
Passons donc à l'effroyable secret du docteur Hitchcock. Et là, on va...
Alors, c'est Hitchcock. Hein, Hitchcock. C'est pas Hitch.
On enlève le T. Voilà, on enlève le T. C'est important. Alors là aussi, faut le dire, en italien, donc dans la version originale, Hitchcock ne s'appelle pas Hitchcock. Il s'appelle, le personnage principal, il s'appelle le professeur Bernard. Et dans la version française, il s'appelle le professeur Hitchcock. Et le titre original n'a rien à voir avec l'effroyable secret du docteur Hitchcock. C'est d'accord. Juste pour...
pour vendre.
Pour vendre. Et c'était très très fréquent dans le cinéma italien des années 60, où on changeait les titres.
Et carrément les noms propres. Ouais.
Les noms propres. Il y a des tas de Sartana ou Trinita, des westerns. Et en fait, dans les versions italiennes, c'est absolument pas ça. Mais, C'est
marketing.
Donc, à l'opposé, l'effroyable secret du docteur Hitchcock est, et là je le dis, un véritable chef-d'œuvre. Derrière Robert Hampton se dissimule Riccardo Freda, l'un des plus grands artisans du cinéma italien. Vénéré par Bertrand Tavernier notamment, qui lui consacra plusieurs études et lui rendit même un hommage sur la fille de D'Artagnan que l'Italien devait mettre en scène. C'est pas la fille de D'Artagnan, c'est la fille... Si, c'est la fille de D'Artagnan. Freda aborda tous les genres avec un bonheur certes inégal, mais aussi avec un raffinement constant apporté à ses réalisations. Curieusement, cet esthète érudit, épris d'art et de littérature, ne portait guère le cinéma d'épouvante dans son cœur. Caltiki et surtout le magnifique Les Vampires furent terminés par Mario Bava, son rival de toujours. Et par un effet paradoxal, ses œuvres les plus accomplies appartiennent à ce genre si souvent décrié.
Quand l'amour devient une horrible perversion, quand l'essence préfère à la chaleur de la vie le froid et l'immobilité de la mort, l'homme devient l'esclave d'une existence inavouable. Le prisonnier d'un affreux secret.
Non !
Une sinistre malédiction va détruire l'existence d'un homme, son bonheur, sa célébrité. Entre ses mains, la possession devient profanation. Entre ses mains, une femme devient la victime de ses monstrueuses expériences.
L'effroyable secret du docteur Hitchcock est peut-être la pièce maîtresse de son auteur. Déjà, l'histoire est extrêmement audacieuse et perverse pour l'époque. Le film est réalisé en 1962. Le professeur Bernard, enfin Hitchcock, ce que je disais tout à l'heure dans la version française, est un médecin réputé qui a créé un anesthésiant ultra puissant afin d'assouvir son péché mignon. Il s'en sert pour s'adonner à son vice sur son épouse, la nécrophilie, ou du moins sous une forme de simulation. Mais elle finit par décéder d'une dose trop forte. Le docteur s'exile pendant 12 ans et revient avec sa nouvelle femme, Cynthia, incarnée par la divine Barbara Steele. Et dès la première nuit, la belle, déjà inquiète par l'omniprésence de l'ancienne épouse du maître des lieux, subit une apparition fantomatique et menaçante, drapée dans son suaire blanc. L'effroyable secret du docteur Hitchcock est la quintessence du cinéma d'épouvante gothique, tout en s'éloignant des thèmes classiques du genre tels que la sorcellerie ou la démonologie qui sont à l'œuvre dans des films, dans des classiques comme La sorcière sanglante ou Le masque du démon. Ricardo Freda ose, de façon détournée symbolique, traiter un sujet délicat, bravant la morale judéo-chrétienne, la nécrophilie. Bien sûr, le cinéaste ne verse pas dans un pamphlet subversif justifiant cette déviance sexuelle, mais dresse un portrait anxiogène d'un homme a priori normal, prisonnier de sa pathologie. Possédant à la fois la rigueur formelle des meilleurs films de la Hammer et la folie esthétique du bis italien, ce petit classique est dominé par une mise en scène d'une élégance inégalée grâce à des décors surchargés mais ô combien justifiés, ses lumières traversées de rouge et de bleu et ses sublimes cadrages. Voilà, la beauté plastique du film apporte vraiment une dimension poétique et onirique à un récit plutôt dérangeant et macabre, du moins pour l'époque. Voilà, les deux films sont édités par Artus et il y en a un troisième dont je n'ai pas parlé dans la catégorie gothique italien, c'est l'orgie des vampires,
ça je commence
crois.
Bien déjà.
Qui est un vrai nanar pour le coup.
Ouais.
Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Comme je choisis une femme, en prenant des risques.
Cinextenso.
Non !
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démate la gueule !
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.